la première fois que je vais brutalement contredire un responsable d'une église qui m'accueille. Je ne ferai pas 3 heures. Est-ce que vous voulez bien que nous lisions ensemble le premier chapitre de la première épître de Pierre? Voilà, première lettre de Pierre, chapitre 1er. L'idée n'est pas d'étudier chaque mot, chaque phrase du texte. Ce serait une belle chose à faire, mais pas ce matin. Mais si Dieu m'aide, peut-être qu'on ira au bout du chapitre. Je lis premièrement les versets 1 et on va lire par petites portions. Donc les versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Oui. Merci. Et merci de le faire. Dès la première phrase, le ton est donné pour les lecteurs de l'époque, de tous les siècles, et nous aujourd'hui, pour nous, destinataires de ce texte, de cette parole de Dieu par Pierre, le ton est donné avec deux mots, élu, étranger. En vérité, dans l'absolu, le ton absolu est donné encore avant quand Pierre dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ est le centre, le sommet et le sens de toute vie de foi et de vie de disciple et service. Ces élus, ils vivent en étranger, dans la dispersion. C'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora. Et le fait que Pierre emploie ce mot, dispersion, bien évidemment, fait référence à la dispersion des enfants d'Israël, premièrement en Assyrie, dans le royaume de Babylone, et là dans tout l'Empire romain et plus loin encore. Simplement, les élus dont parle Pierre, il en parle, donc ce sont les églises. Alors, on les connaît, celles qu'on connaît le mieux, c'est Galatie et Asie. Asie, c'est Éphèse et toute la région, les destinataires des lettres aux sept églises. Voilà. Galatie et Asie, Paul est allé, il a prêché, il a fondé une partie de ces églises. Nous les connaissons, ces élus, ce sont des juifs et des non-juifs, sans fracture, à ce moment-là, sans fracture. J'ai pas dit sans problème. Quand on lit le début de l'épître aux Galates, voilà. sans fracture, ensemble disciples de Jésus-Christ. Et donc, Pierre, les actes montrent que Pierre a voyagé. Et très probablement, il a visité les cinq provinces mentionnées et beaucoup d'autres, bien évidemment. Et je continue, élu selon la préscience de Dieu. Et là le ton est donné extrêmement fort, à la fois le ton absolu, c'est-à-dire Dieu est premier, il est avant, c'est lui qui non seulement savait avant, mais a élu, c'est-à-dire c'est une décision de volonté de la part de Dieu, et prédestination, etc. Élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. C'est-à-dire que les personnes juives et non-juives que Dieu a choisies pour les attacher à son Fils, eh bien, du côté de Dieu, c'est fait depuis avant la fondation du monde, mais dans le vécu de ces personnes, c'est fait, l'élection devient objective, concrète, ou plutôt elle s'applique, pardon, l'élection s'applique dans leur vie par la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire par le fait que l'Esprit de Dieu les saisit et donc les sépare de péché, de la perdition, etc., mais les saisit, les attache, les tourne vers Dieu et les attache au Fils de Dieu, donc élu par la sanctification de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui nous sanctifie, et la parole de Dieu, les deux étant complètement indivorçables, c'est pas français, inséparables. Donc, élu par la sanctification de l'Esprit, et pourquoi ? Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, malheureusement, la majorité des versions traduisent le début « élu pour obéir à Jésus ». Alors, ce qui est profondément vrai. Alors, pourquoi malheureusement ? Parce que la fin de la phrase « de Jésus-Christ » s'applique autant à obéissance que à sang. Le sang de Jésus. Et il faut... Qui écrit ça par le Saint-Esprit ? C'est Pierre. Et la première fois où Pierre a compris, à peu près, au moment où Jésus dit qu'il va être arrêté, frappé, mis à mort, etc., qu'est-ce qu'il fait, Pierre ? Il s'oppose. Non ! À Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas ! Et vous voyez maintenant, une fois saisi par le Saint-Esprit, une fois sanctifié par l'Esprit, eh bien, il magnifie, il loue l'obéissance de Jésus. Si Jésus n'avait pas obéi, hein, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et donc, bien sûr que c'est l'obéissance de Jésus qui fait qu'il y a eu expiation et qui fait que nous pouvons obéir. Parce que ce n'est pas seulement au moment d'être crucifié que Jésus a obéi au Père. Nous le savons, il dit littéralement au sujet de donner sa vie, tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc, mais ce n'est pas que là qu'il obéit, c'est dès le début. On voit là, hein, quand il a 12 ans, comment il est plongé dans le texte biblique. Et il a obéi toute sa vie à Dieu. Et c'est son obéissance par son esprit qui, j'allais dire, est appliquée de nouveau et comme reproduite dans ma vie. Si je veux obéir à Dieu autrement que sous l'ombre de l'obéissance de Jésus, sous ses ailes à lui, eh bien, on le sait tous, même les plus jeunes le savent. Hein, on veut obéir, et puis, 9 fois sur 10, on n'obéit pas. Alors, vous allez me dire, Tu as dit que tu ne ferais pas une étude biblique sur chaque phrase et chaque mot. Ne vous inquiétez pas, je retombe sur mes pattes. En fait, ces deux premiers versets, non seulement le ton est donné, il y a toute l'épître en germe dedans. Et pour nous aujourd'hui, tout le chapitre, il est là-dedans. Dans de Jésus-Christ, Dieu le Père, de Jésus-Christ, et puis élu étranger. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Maintenant, je propose de lire les versets 3 à 5 inclus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc maintenant je fais comme j'ai dit, je ne commente pas chaque phrase. Première chose, Dieu nous a régénérés, alors qu'il soit béni, il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ. Régénérés, fait naître de nouveau, fait de nous une nouvelle créature par la résurrection de Jésus, par son sang et sa résurrection. Pourquoi ? Pourquoi par sa résurrection ? Mais parce que Jésus a été ni crucifié, ni ressuscité pour lui-même. Il a été crucifié, puis ressuscité par Dieu, en tant que substitut du pécheur, comme le bélier. Le pécheur devait être frappé par le châtiment de Dieu et ne pas ressusciter. C'est Jésus qui a été frappé. Donc, sa crucifixion me purifie et sa résurrection me rend tout neuf, me ressuscite. Alors pour la résurrection des corps, c'est à venir, mais pour la résurrection de l'homme intérieur, il nous a régénérés. Pour une espérance vivante, elle est où l'espérance vivante ? C'est quand l'espérance vivante ? C'est maintenant. Elle est où ? Ici, dans notre âme, dans le corps de Christ, aussi dans nos pensées, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Il est où l'héritage ? Dans les cieux. Alors, un peu avant dans la réunion, le mot héritage a été employé pour ce qui est transmis aux enfants, et c'est totalement juste. Hein. Simplement ici, c'est un autre sens. Là, c'est carrément, c'est la plénitude. C'est, voilà, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés, par le moins, gardés en la puissance de Dieu, c'est-à-dire il vous met au milieu de sa puissance. Il est la forteresse autour de vous, hein. Tu m'entoures par derrière et par devant. Par le moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut, c'est quand ? C'est déjà maintenant. Et même, il est accompli. Mais il est aussi futur. Salut prêt à être révélé quand ? Dans les derniers temps. C'est-à-dire, ce qui a été. C'est-à-dire, Pierre va employer deux fois l'expression « lors de l'avènement de Jésus-Christ ». Au son de la dernière trompette, le Seigneur descendra du ciel. C'est ça l'espérance. Dans la Bible, le mot espérance, il a deux sens, un peu comme en français d'ailleurs. Ça désigne soit le fait d'espérer, la capacité à espérer. C'est l'espérance vivante, maintenant, dans notre âme, dans notre cœur qui est âme-esprit. Mais le mot désigne aussi la réalité qui est espérée. Ce qui fait que notre espérance, c'est le fait que nous espérons, mais c'est aussi le retour de Jésus. C'est le sommet de l'espérance dans les termes du Nouveau Testament, parce que ça récapitule tout. Tout à l'heure, Farid a lu 5 versets dans 1 Corinthiens 1. 5 versets. Dans les 5 versets, l'apôtre Paul mentionne 2 fois l'avènement de Jésus. Une fois il dit pour le jour de Christ et une fois il dit pour l'apparition de notre Seigneur. Vous savez combien de fois le Nouveau Testament mentionne le retour de Jésus et la fin? Plus de 300 fois. Alors si quelque part ça a disparu du centre de notre espérance, il y a des réajustements à opérer. Le salut prêt à être révélé. Vous voyez, le mot révélation, on l'emploie avec bonheur et fidèlement au texte biblique pour parler de ce que Dieu nous révèle aujourd'hui. Il révèle les choses, il révèle que Christ est le seul sauveur. Il révèle quand nous ouvrons les Écritures, Dieu révèle. Mais évidemment que le même verbe a un sens suprême. C'est quand Christ apparaît et descend du ciel et nous prend avec lui. Et là, le salut, il sera révélé. Plus loin, Pierre dit encore ce genre de choses avec d'autres mots. Versets 6 à 9. Vous en tressaillez d'allégresse. Vous en tressaillez de quoi? Vous remontez, si vous voulez, à la maison, vous remontez. À partir de là, le salut prêt à être révélé, la puissance de Dieu qui nous garde, un héritage incorruptible, hop. Et vous remontez à Dieu le Père et de Jésus-Christ. Vous en tressaillez d'allégresse. Quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut. Affligé par diverses épreuves, afin que, il y a un but, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de l'avènement de Jésus-Christ. Vous en tressaillez d'allégresse, élus. Vous êtes affligés, étrangers et voyageurs ici-bas. Notre citoyenneté est dans les cieux. Nous sommes élus, mais par le fait même d'être élus, nous sommes étrangers. C'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi de diverses manières à je sais plus, une jeune fille ou un enfant, de dire tu te sens pas comme les autres, par exemple, ou bien voyez tu vas pas suivre le courant des autres, étrangers. Alors affligé, je peux pas faire l'impasse sur ces trois mots. Il le faut. Non seulement nos afflictions n'échappent pas à Dieu, mais lui dit il le faut. Pour purifier, muscler, attester votre foi. Et l'enjeu est tellement glorieux. Louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. L'enjeu est tellement glorieux que, Paul le dit ainsi, nos souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. Voilà. Alors ici, louange, gloire et honneur, bien sûr que le fait que notre foi ait traversé l'épreuve, les épreuves, les afflictions, ça glorifie Dieu. Mais le sens plus restreint de ce verset, c'est que le dernier jour, Dieu fera l'éloge de notre foi. Il fera l'éloge de notre foi. Pourtant, c'est lui qui la donne. Alors oui, vous êtes affligés. Il y a des afflictions. Il y en a des moyennes. Il y en a des courtes. Il y en a des terribles. Il y en a des longues, longues, des décennies, des décennies. Voilà. Lors, louange, gloire, honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Pierre qui écrit ça, lui, il l'a vu. Et il dit, nous on ne vous raconte pas des mythes, des fables, hein. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux sur la montagne, quand son visage était devenu comme le soleil, dans le soleil en pleine force. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous voyez, ça c'est un acompte de l'éloge. Dieu dit, vous aimez mon fils. Et implicitement, si vous voulez, pour une fois je paraphrase, c'est beau que vous l'aimiez. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Voyez l'éloge de la foi, il y a un acompte. Et vous tressaillez d'une allégresse indicible et, littéralement, glorifiée. C'est-à-dire que c'est Dieu qui met de la gloire sur votre allégresse. Parce que justement, elle côtoie et elle traverse des afflictions et toutes sortes d'obstacles, le premier étant que vous ne l'avez pas vu. Hein, rappelons-nous ce que Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous en tressaillez d'allégresse, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorifiée, littéralement en obtenant ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. Le salut de vos âmes, c'est-à-dire être pour toujours avec le Seigneur. Versets 10 à 12. Il n'y en a que 3, mais ils sont longs. Surtout le 12. Ce salut, donc Pierre vient de dire le salut de vos âmes. Ce salut, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, qui était pour vous, littéralement, les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et où, quelles circonstances indiquaient l'Esprit de Christ qui était en eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient serviteurs de ces choses. C'est-à-dire du salut accompli et révélé en Christ, de la personne même de Christ, du dessein de Dieu, etc. Serviteurs de ces choses. Maintenant, ces choses vous ont été annoncées par ceux qui vous ont évangélisé, littéralement. Ils vous ont évangélisé par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard.
Pardon.
les prophètes qui ont prophétisé. L'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit, le même Esprit par lequel des gens vous ont évangélisé. Esprit envoyé du ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Christ. C'est le même, hein? Il était en eux. Ils ne savaient qu'en partie. Évidemment, ils sentaient que ce qu'ils prophétisaient était immense, mais ils ne savaient pas pour quand, de quelle manière, époque où, littéralement époque où, circonstance. Ils ont cherché dans ces deux directions. Mais, allez, je vais dire une chose qui nous sort de 1 Pierre. J'ai été profondément touché ces derniers mois j'ai pris conscience que les longs textes qui parlent d'Abraham dans Genèse, et puis il est aussi parlé de lui ensuite pas mal de fois, sauf si je me trompe, peut-être Joël, tu m'aideras, ou d'autres peuvent me corriger sur ce point si besoin, ne mentionne pas la joie d'Abraham, à ma connaissance. Le seul, si je ne me trompe pas, qui mentionne la joie d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors, ne me demandez pas de vous dire comment il a vu, qu'est-ce qu'il a vu. Voilà, c'est pas écrit, donc je vais pas extrapoler, inventer. Mais, voyez, Abraham, il était prophète. C'est le premier dont Dieu dit, il est prophète. Dans Genèse 20, Dieu dit à Abimélec, Abraham est prophète. Il est prophète. Et est-ce que c'est avec l'épisode du bélier? Est-ce que c'est déjà avant? Est-ce que c'est... Peu importe. Voilà, il se réjouit du jour de Christ, de la personne de Christ. Eh bien, d'une certaine manière, tous les prophètes ont fait ça. Il n'y a quasiment aucun prophète auteur de livres bibliques, de livres d'Ancien Testament, qui n'ait pas annoncé quelque chose au sujet du Messie. Des fois, c'est juste une phrase. Des fois, c'est Ésaïe, on connaît mieux. C'est de longs chapitres. Voilà. Sans le nommer, si vous voulez, le Messie, qu'il le nomme fils ou pas, David le nomme fils dès le psaume 2 et puis plus tard encore. Le Messie a été le sens et la gloire des prophètes d'Israël. Entre Dieu et eux, et quelquefois ils pouvaient l'exprimer. Je relève juste que l'Esprit de Christ attestait par les prophètes les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Ceux qui vous ont évangélisé, c'était quoi leur focus ? D'après ces textes de Pierre. C'est tout ce qu'on a lu jusque-là. Dieu le Père, le Messie, l'élection, la grâce, la grande miséricorde de Dieu, l'héritage céleste. Pardon ? L'Évangile. L'Évangile. Quand on dit l'Évangile à quelqu'un, la vraie essence qui brûle, le vrai ressort, le vrai ressort, c'est les choses célestes. Et un vrai évangéliste, il ne dit pas aux gens « convertis-toi et tu auras une meilleure vie ». Il dit « convertis-toi et tu auras la vie éternelle ». Je fais hyper résumé, hein, mais... Maintenant, bon, les anges désirent plonger les regards, il y a mystère. Le mystère de la piété est grand. Christ a été manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Maintenant, les versets 13 à 17, je crois. Oui. Oula, on n'ira pas au bout. C'est pourquoi... Affermissez votre pensée, littéralement, mettez une ceinture à votre intelligence, comme on met une ceinture sur la tunique pour pouvoir bouger, mieux travailler, pas être empêtré. Mettez une ceinture à votre intelligence. Soyez sobre. Vous êtes étranger. Vous n'êtes pas obligé de courir après toutes les passions et toutes les convoitises. Non seulement vous n'êtes pas obligé, mais soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour, implicitement sur terre. Petit paragraphe, je relève juste deux, trois choses. La grâce, est-ce qu'elle nous a déjà été donnée? Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce qu'elle continue à nous être donnée? Amen. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre prie pour ça, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous savez que c'est le sujet de prière le plus souvent répété dans le Nouveau Testament. Minimum 33 fois. Minimum 33 fois, la grâce est un sujet de prière dans le Nouveau Testament. Au présent, nous en avons tant besoin, nous vivons par elle. Et là, Pierre en parle au futur, la grâce qui vous sera apportée. Alors j'aime beaucoup ce verbe apporter, parce que c'est vraiment, hein, voilà, Dieu, comme si on prend un colis, puis on l'amène. Et donc, ben c'est pas un colis, évidemment. Lors de la révélation de Jésus-Christ. Voyez, c'est le centre de l'espérance. Donc ça veut dire, j'ai connu la grâce, je connais la grâce, j'en vis, mais j'en verrai tellement plus, je verrai tellement plus grand. Ne vous conformez pas, bien sûr, au désir d'autrefois. Pourquoi enfin obéissant? Parce que appelé. Parce que, appelé, quiconque est conscient que Dieu l'appelle, il se met à obéir. En débutant, c'est d'abord un débutant en obéissance, mais il se met à obéir. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Alors de nouveau, allez, un petit grief personnel envers un grand nombre de traductions. Peu de traductions conservent le verbe « devenez ». Or, c'est vraiment le verbe, littéralement, « devenez saint ». C'est-à-dire, il y a vraiment, dans votre conduite, parce que dans votre être, ça c'est Dieu qui l'accomplit par son esprit, qui continue à l'accomplir par son esprit et sa parole, hein, sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Mais « devenez saint » dans votre conduite, l'accent est vraiment mis sur le fait que c'est une... c'est un cheminement. Voilà. Et bien entendu, on devient saint en conduite par le lien au saint, S majuscule, à Dieu. Plus que par la religion humaine, la bonne volonté humaine. Voilà. Vous serez saints, car je suis saint. C'est à la fois commandement et promesse, et même éclairage sur le processus du devenir saint. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, si vous voulez, ce verset, il a trois étages. Si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, alors, je vais d'abord dire un mot sur « conduisez-vous avec crainte ». Alors, de nouveau, il faut regretter très fort que le mot « crainte » ait disparu d'un grand nombre de traductions. D'abord parce que c'est le mot littéralement, et parce que le mot « respect » ne suffit pas, et de loin. La crainte de Dieu, c'est ce qui s'imprime en moi face à l'incroyable disproportion qui existe entre Dieu et moi, le Créateur et la créature. Et ce n'est pas par hasard que Dieu emploie le mot crainte. Voilà. Là, je n'ai pas le temps de développer plus, mais Moïse explique déjà, dans Exode 20, je crois, Moïse explique déjà, dans une même phrase, il emploie le mot où Dieu dit, Dieu vous parle pour que vous ne soyez pas dans la crainte, afin que vous ayez la crainte de son nom, c'est-à-dire pas la peur, mais ce saisissement viscéral face à c'est la grandeur de Dieu, comprendre qu'il est grand. Voilà. Et donc, bien sûr, sanctification va avec crainte. Là où, parce que là où le chrétien n'a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qui revient ? Les convoitises que vous aviez autrefois, vos désirs d'autrefois. Voilà. Et c'est non seulement c'est une très mauvaise pédagogie de vouloir supprimer toute crainte de la vie des gens qu'on a, des enfants ou des frères et sœurs qu'on enseigne, mais c'est trahir Dieu, c'est trahir le saint. Et maintenant un mot sur le Père juge. Et je relève simplement en passant que c'est au présent. C'est-à-dire, il ne suffit pas, et de loin, de reconnaître du bout des lèvres qu'à la fin, Dieu jugera. De nouveau, c'est trahir la Bible. La Bible parle d'un jugement présent de Dieu. Dieu a toujours jugé et est toujours en train de juger. Ceux qui sont en Christ, il ne les condamne pas, mais il juge leurs actions. Et ça, c'est écrit noir sur blanc, vraiment plus d'une fois. Voilà, il juge déjà. Ça, je le relève, il faut le... Alors, il est midi. Oui. Non, non, il est 11h, c'est super. Oh là là, j'ai une heure de bonus. Bon, c'est midi, hein. Il est midi. Hein. Donc, je renonce à aller au bout du chapitre. Hélas, je relève deux choses sur la partie du chapitre qu'on ne lira pas aujourd'hui. C'est le verset 20, que Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, par le sang duquel on est racheté, Christ a été désigné avant la fondation du monde. Comme sacrifice expiatoire. Ça me dit que même la venue de Christ, le prix payé, la rédemption, ne sont pas, de la part de Dieu, des solutions de raccroc, de rattrapage, de dépannage. Mais avant la fondation du monde, Dieu avait prévu comme ça. Et Paul explique que nous avons été créés pour lui. Nous existons pour lui. Et non pas, lui existe pour nous. Alors il fait infiniment pour nous, à commencer par nous aimer, et même loger dans notre cœur. Donc dans un sens, il est pour nous, déjà en ce qu'il n'est pas contre, mais voilà. Mais Christ n'existe pas pour nous. Il existe pour Dieu. Et nous avons été, et la création de l'homme, et de la terre, et l'Éden, le jardin d'Éden, etc., c'est que le commencement pour amener les élus au Fils. Et Jésus confesse ça dans sa prière en Jean 17, ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est pourquoi l'espérance chrétienne n'est pas un retour en Éden. Jamais le Nouveau Testament ne fait le lien entre le salut en Christ et le jardin d'Éden. Jamais, nulle part. L'espérance chrétienne, c'est l'avènement de Christ et être pour toujours avec lui. Voilà. Et puis, dernier mot, c'est la fin du dernier verset du chapitre. L'herbe sèche, l'herbe sèche, la fleur tombe, la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et on voit dans tout le chapitre Pierre qui, le sang de Christ, sa résurrection qui nous régénère, les souffrances de Christ, la gloire qui s'en suivrait, le sang précieux de Christ qui nous rachète, la vaine manière de dire, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est le cœur de l'Évangile, hein, la personne de Christ crucifiée et ressuscitée. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Merci, notre Père. Amen. Éternel Seigneur, qui peut nous encourager comme toi? Qui peut nous fortifier comme tu le fais? Quelle parole nous donne l'espérance, sinon la tienne, toi le Dieu de l'espérance. Merci de l'avoir chevillée dans nos âmes, et merci parce qu'elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire que la réalité que nous espérons, elle est dans les cieux. Et toi, Seigneur, tu reviens. Amen. Viens, Seigneur Jésus.